Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Tony Oka. Tony, merci beaucoup, parce que c'était dans des conditions, hein, vous ne savez pas ce qui s'est passé juste avant. Alors Tony, première question, finalement là on est en septembre 2021, ouais. Là jusqu'à maintenant, dans ta carrière pro bien évidemment, est-ce que tu es satisfait du chemin parcouru ?
Si je regarde en 10 combats ce que j'ai accompli, bien sûr je suis satisfait. Je pense que je suis le mieux classé avec aussi peu de combats. Mais maintenant, c'est vrai qu'il s'est quand même passé 5 ans depuis les JO et on a perdu 2 ans. La dernière année, on a perdu une année pleine où on n'a pas boxé à cause du Covid. Donc c'est vrai que voilà, on a marché un petit peu au ralenti, mais c'est la même chose pour tout le monde au final. Et quand on se rend compte de... quand on regarde les autres qui étaient à Rio, il n'y en a aucun qui est devenu champion du monde, tu vois. Mm-hmm. Donc, on prend notre mal en patience et puis on se dit que c'est pendant pas longtemps.
Et il y avait pas mal de posts ouais, justement sur Twitter où ils comparaient après 10 combats qui avait affronté Wilder, qui avait affronté ouais. Joshua et qui t'avait affronté. Ouais. Quand tu vois ces choses-là sur Twitter, parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux, est-ce que tu te dis on est un peu dur avec moi?
Complètement. Parce que le 11e combat de Wilder, par exemple, avec le Butterman, là, ça, c'est, je me dis, si moi j'avais fait un truc comme ça, ne serait-ce qu'à mon premier combat, je me serais fait descendre à mort. Maintenant, ils ont une culture boxe. Une culture boxe et surtout une culture sport. Ils n'attendent pas énormément des champions à en devenir. Tu vois, ils les laissent faire leur route parce qu'ils ont déjà des grands champions. Mm-hmm. Donc, dans leur soirée, ils ont... deux co-main event, un main event, tu vois. Et du coup, les combats qui sont avant, ils se disent, c'est bien, ils vont faire leur chemin. Là, il y a un médaillé d'argent olympique en poids lourd aux États-Unis. Mm-hmm. Je suis sûr qu'ils vont l'amener très haut et qu'ils vont le laisser se développer jusqu'à ce qu'il arrive en haut. Maintenant, moi, le problème, c'est que il y avait personne de médiatiquement, en tout cas, au-dessus de moi en France, ouais. Quand je suis passé professionnel. Donc, on avait tout de suite beaucoup d'attentes envers moi. Et donc, on a tout de suite été un peu dur. Après, c'est comme ça. Faut aussi assumer son statut et son rôle.
Et tu penses aussi que c'est peut-être parce qu'on t'a attendu, mais pas comme, on va dire, un gars à qui on laisse tout passer. Il y avait aussi ce côté, les gens ne savaient peut-être pas comment se positionner parce que toi, tu as une communication. Nous, on aime bien parce que c'est vrai qu'on suit pas mal les sports US où tu dis, je veux être champion du monde, ouais. Là, je veux faire ci, je veux faire ça. On préfère ça à quelqu'un qui dit, je sais pas, on va prendre combat après combat.
Comme ça, c'est la communication à la française, tu vois. La communication à la française, c'est... pour moi, c'est même pas de l'humilité. Hein. On dit, oui, ils sont humbles. C'est pas de l'humilité du tout. Pour moi, c'est limite de l'hypocrisie.
OK.
Tu vois. Parce que... quand tu vois des gens qui s'entraînent pendant toute leur vie, pendant 4 ans, pour aller aux Jeux Olympiques, tu vois, c'est au minimum 4 ans, tu arrives au JO et tu dis je vais prendre combat après combat, on va voir, j'espère. En fait, tu te fous de la gueule du monde. Tu vois, tu sais très bien pourquoi tu es venu, tu as fait des sacrifices, tu as laissé ta famille, tu as laissé ci, tu as laissé ça. Ça se trouve, tu n'as plus un rond en poche parce que tu as tout mis dans ton projet. Moi, c'est ce qui m'était arrivé avec Estelle. Faut savoir que pour aller au JO, nous, on y croyait à mort. Okay. Tu vois, on croyait qu'on allait être champions olympiques tous les deux, et on voulait que nos familles soient présentes. On sait très bien que les maisons sur place, les billets d'avion explosent avant les JO. Mm-hmm. On a investi, 42 000 euros pour faire venir nos deux familles à Rio. En termes d'économie, on avait, peut-être 30. Okay. Peut-être à peu près 30 000 euros.
Ce qui est très bien déjà.
On avait fait champion du monde, donc on avait essayé de mettre de l'argent de côté, tu vois. Et donc on avait mis 30 000 euros dedans et il nous manquait 10 000. Et donc les 10 000, on a creusé sur les découvertes des différents comptes. Donc on était dans le rouge avant Rio. Donc admettons qu'on va à Rio et qu'on se casse la gueule. Mmh. C'est, ouais. On est dans la merde. 10 balles, tu les trouves pas comme ça, tu vois. Donc moi, en ayant fait ce choix-là, en faisant ces sacrifices, je vais arriver à Rio et je vais dire, ah, on va voir, et je viens pour profiter de la fête. Je m'en fous, en fait. Tu vois, moi, je suis là pour tout casser. Donc en pro, c'est pareil. J'investis sur moi-même et je me dis, il faut que ça marche, ça passe ou ça casse, tu vois.
Et t'as hâte d'être à ce moment-là de ta carrière où, quand tu seras aux États-Unis ou même en Angleterre peut-être, les gens vont apprécier ça. Ou là, tu vois, le moment où tu vas dire, bah là, j'arrive et je vais le démolir, les gens vont pas être en mode, ah non, c'est pas bien de dire ça, mais il peut y avoir 10 000 personnes en conférence de presse qui vont être comme des dingues.
Bah, je pense surtout que par rapport à la France, ça va se faire quand je vais gagner. Tu vois.
D'accord.
Parce que forcément, je dis.
Quand tu dis tu vas gagner, c'est quoi? Parce que là, t'es déjà champion d'Europe.
Ouais,
l'Union Européenne.
On espère faire le titre de champion d'Europe avant la fin d'année. Et quand je vais gagner face à un nom, en fait. Je pense qu'au-delà des ceintures, c'est plus un nom qui est important pour montrer que vraiment tu t'inscris parmi les grands de la catégorie. Okay. Et à ce moment-là, on va se dire, ah ouais, en fait, d'accord. Peut-être qu'il n'a pas dit tout ça pour rien et qu'il peut vraiment le faire.
Et par rapport à cette victoire contre un nom, est-ce que toi, tu étais déçu de ta victoire face à Diopa? Dans le sens de le déroulé de... Parce que nous, on avait vraiment hâte de voir ce combat-là. On espérait avoir une guerre, on se disait, ça va être cool. Parce qu'enfin, on va voir de quelle boîte est fait. Bah, finalement, c'était trop court.
Sincèrement, moi, je savais que j'étais clairement au-dessus de lui. Mm-hmm. Tu vois. Ouais. Après, comme je le répète, ça fait prétentieux, mais c'est comme ça.
Tu vois, il faut ça pour gagner aussi.
J'ai analysé ses combats, j'ai analysé ses tactiques, ses techniques, j'ai vu ses entraînements. Je sais que j'ai toujours été au-dessus techniquement de Johan, tu vois, sans lui manquer de respect. Maintenant, c'est un boxeur dur au mal, etc., qui va loin dans les rounds. Mais je pensais qu'avec ma rapidité, mon explosivité, il ne tiendrait pas, tu vois. Donc, sincèrement, limite, je doutais un peu parce que je me suis dit, s'il tient, je vais commencer à douter.
D'accord.
Parce que la pression que je vais lui mettre, le changement de zone que je vais faire, etc., c'est pas possible. S'il tient, c'est qu'il est surhumain, tu vois. Mm-hmm. Et au final, j'étais un petit peu surpris quand même qu'il tombe aussi vite.
Ouais, okay.
Et donc voilà, après, ça montre que j'ai progressé, ça montre qu'on fait du bon boulot.
Et jusqu'à maintenant, donc t'as tes 10 combats, il y a ce côté, t'as jamais été testé jusqu'à maintenant, en tout cas en combat professionnel. Est-ce que tu te dis, t'as envie de vivre ça aujourd'hui, ou t'as envie que justement que ce combat-là, qui va un peu entrer dans les mémoires, arrive plutôt après?
Bah en fait, je me dis que si en boxant des gars qui sont allés vers la 25e place mondiale, ouais, 20e place mondiale, j'arrive à les passer aussi facilement, entre guillemets, ça veut dire que mon niveau, il est bien plus haut.
Okay.
Parce que si déjà un mec qui est classé 25, je cale un peu, ça veut dire que voilà, en arrivant vers la 15e, ça va être compliqué. Tu vois. Donc là, je me dis, bah, j'ai forcément le niveau pour un top 10, tu vois. Et en passant ce top 10, bah, j'aurai le niveau pour un top 5, etc. etc.
Et là, actuellement, vas-y, tu veux dire?
Non, en gros, on y va, moi j'y vais comme ça.
Et là, aujourd'hui, tu vas me dire, oui, ça veut rien dire, il y a le classement Boxrec.
Ouais.
Tu es 17e du classement Boxrec. Toi, aujourd'hui, septembre 2021, tu te positionnes où en dehors des classements?
Si moi je devais donner mon.
Ouais, exactement. Ouais.
Je pense que je suis entre. Ouais, je suis pas loin du top 10.
Mm-hmm.
Quoi qu'il arrive, je pense que je suis pas loin du top 10. Après, le classement, des fois, il varie, tu vois. J'étais 20 il y a deux semaines. J'étais 13e.
T'as été, ouais, crois, jusqu'à cette place-là.
Il y a quelques mois. Bon, c'est comme ça. Après, je pense que ce qui compte le plus pour eux, c'est plutôt les classements ceinture, les classements fédération, tu vois.
Ouais.
Moi, sincèrement, tout ce que je veux, c'est boxer un nom. Je sais que si jamais je boxe un mec qui est 9e, 10e, bah, je vais faire un grand bond dans les classements et là, ça va être intéressant.
Et justement, là, Tony, t'es entré en campagne pour The Joyce, donc quand t'avais battu en finale des Jeux Olympiques de Rio, tout le monde le sait. Il est plus âgé que toi.
Ouais.
Il a été médaille d'argent. Pourtant, aujourd'hui, il t'a dépassé, entre guillemets, dans la carrière professionnelle. Comment t'expliques ça, toi?
Bah, déjà, il a plus de combats
ouais.
que moi. Et ensuite, lui, il a fait le choix d'aller très vite chez les professionnels, tout simplement parce qu'il a 36 ans. Moi, en passant pro, j'ai fait champion olympique à 24 ans. Donc, j'avais tout le temps de me former, de partir aux États-Unis, de vraiment prendre le temps de faire cette transition des amateurs aux pros. Alors que lui, voilà, il est déjà limite sur la fin de sa carrière, tu vois, alors qu'il n'a pas fait de championnat du monde encore. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 29 ans, là je me sens prêt, tu vois, je sais que, écoute, à partir de maintenant, voilà, je peux boxer, pour moi dans ma tête, je me dis je peux boxer n'importe qui. Et donc je pense que c'est, il y a ça qui joue, il y a aussi le fait qu'ils soient anglais, que la boxe soit pas pareille en Angleterre, qu'ils aient pu organiser un combat comme celui face à Dubois, qui lui a fait prendre en crédit. Son manager, non, son promoteur, Frank Warren, m'a appelé au mois d'avril pour me proposer un combat avec lui. Nous, on a accepté tout de suite. Et au final, après quelques négos, ils se sont rabattus sur Carlos Takam. Ils sont boxés en juillet. Et voilà, là, je lui ai dit, écoute, tu tournes autour du pot pour rien. En soi, c'est vite fait. On signe les papiers, on boxe. Tu sais, moi, je suis vraiment de la génération... mon père, il me montrait énormément de combats. Frazier, Ali, Liston, Foreman, Holmes, tu vois, c'est pour moi, ces gars-là, ils sont tous boxés. À part Ali, Foreman, qui sont boxés qu'une fois, ils sont boxés 2-3 fois. Tu vois. Et tout le monde boxait tout le monde, en fait. Avant, il n'y avait pas de... ça parlait pas trop chinois. Tout le monde se boxait. C'est un peu ce qui se passe en UFC. Tu es obligé de te boxer. Donc, tout le monde se boxe. Et le problème avec la boxe, c'est que... ils ont commencé à créer pas mal de ceintures, super champions, intérim, gold, silver, etc.
Franchise maintenant aussi.
Ouais. Et les gars, en gros, ils veulent tellement avoir un palmarès vierge de toute défaite que qu'ils s'évitent, tu vois. Ça fait, allez, peut-être 5 ans qu'on parlait d'un combat Wilder-Joshua. Et aujourd'hui, limite, on s'en fout.
C'est ça.
Parce que ça y est, la vibe, elle est passée, l'autre il a perdu, ils sont plus invaincus. Donc à vouloir trop faire de promotion, trop faire de com et trop faire de buzz pour justement faire monter les enchères, au final, tu dégoûtes un petit peu les fans, tu vois. Donc moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je pars du principe où, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un sport, c'est la boxe. Il n'y a pas un poids lourd qui a arrêté sa carrière invaincu, tu vois. À part Rocky Marciano, mais pour moi, c'est pas un poids lourd. Je crois qu'il faisait 75 kilos.
Complètement, c'était une autre époque.
Ouais, c'est notre époque. Mais depuis les Mohamed Ali, il n'y a pas un poids lourd qui, certes, tu vois, qui a vaincu. Les Ali, les Lewis, les Holyfield, Tyson, qui tu veux, les mecs, ils ont tous perdu. Et pourtant, c'est quand même des grands champions parce qu'ils nous ont donné des grands combats. À partir du moment où tu arrives dans le top et tu fais des grands combats, je ne pense pas que les gens, ils en veulent à Wilder parce qu'il a perdu. C'est la boxe. Tu as perdu, tu reviens, tu refais autre chose. Mais voilà, aujourd'hui, les gens sont trop... ils se tournent autour, ils cherchent. Au final, pour moi, c'est limite ridicule. Et c'est pour ça que du coup, ça fait fuir un petit peu le public de la boxe.
Mais toi, tu penses à ça, enfin, tu penses à te dire, évidemment, tu veux gagner, enfin, tout le monde veut que tu gagnes, mais à te dire, si jamais je perds, c'est pas grave.
C'est pas que c'est pas grave. On ne veut pas perdre, forcément. Mais faut faire avec. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire avec. Quoi qu'il arrive, faut faire avec. Dans la vie, des fois, tu tombes, tu te relèves. C'est comme ça. Pour moi, l'attitude qu'a Wilder, c'est chaud. Parce que le mec, il s'est tellement mis haut. Quand il s'est fait battre, il a commencé à inventer des trucs. Non, c'est mon coach. Non, il y avait des trucs dans mon eau. Non, en fait, j'avais un survêt de 25 kilos. Non, en fait, toi, t'as perdu. Rentre chez toi, va t'entraîner, reviens, et puis ça va aller. Regarde, Joshua, quand il a perdu face à Ruiz, ils ont commencé à l'interviewer. Ils ont dit, écoutez, moi, j'ai perdu. Le champion, il est là. Aller le voir, on se revoit dans pas longtemps. Et pour moi, ça, c'est une attitude de champion.
Ok. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une manière différente de.
Ça n'a rien à voir.
Ouais. Et Jojo s'est imposé 6 mois après, en plus. Ouais.
Exactement.
Franchement. Et là, toi, tu dirais justement, Joe Joyce, il a aussi bénéficié peut-être du fait d'être moins attendu parce qu'il y avait Joshua, il y avait Dillian Whyte qui était devant lui. Toi, depuis le début de ta carrière chez les pros, tu es une superstar. Enfin, en tout cas, en France. Toi, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est un avantage, ça, de. Quand les projecteurs sont déjà sur toi, tu es habitué, et quand il va y avoir les vrais trucs, tu seras finalement...
Quoi qu'il arrive, c'est vrai que la pression médiatique, je l'ai depuis quelques temps. Maintenant, on ne va pas s'en plaindre. Le fait aussi d'être attendu, d'être sous les projecteurs, ça fait que moi, j'ai pu passer pro dans de bonnes conditions, que je gagne très bien ma vie, que j'ai des partenaires et des sponsors qui me suivent, etc., etc., ce qui n'est pas... le cas de 99,9% des boxeurs français, tu vois.
C'est clair.
Regardez rien que cette année, l'année Covid, et même là, depuis qu'on a repris les combats, combien d'organisations il y a eu en France ? Il n'y en a pas des masses, tu vois. On a vu l'avènement de plateaux télé, on va dire, en stream, tellement tellement il n'y a plus de combats à la télé. On a vu Michel Soro et Arsène Goulamirian qui viennent de quitter une event parce qu'ils boxent pas, tout simplement, tu vois. Et eux, ils n'ont pas 25 ans.
Hein. C'est clair.
Ils sont limite sur les dernières années qui leur restent. Et donc, les mecs, il faut qu'ils maximisent.
Bon, toi, là, tu es en France. Tu vas combattre Roland Garros d'ici quelques heures. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un boxeur français puisse justement jouer sur les deux tableaux et se dire développer la boxe en France, mais aussi aux États-Unis, parce que on va pas se mentir, va falloir que tu y ailles et que les gros combats, ça va être très très dur de les faire venir en France.
Complètement. Pour moi, ça a toujours été mon projet de commencer quoi qu'il arrive en France. Je me dis qu'un championnat du monde face à un des trois rois mages là où un autre mec. C'est pas possible qu'on le fasse en France. En termes de budget, on n'a pas l'air insolite, tu vois. Il pèse des millions et des millions, tu vois. Dion, il est milliardaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse comme proposition? On sait très bien qu'on va devoir aller le chercher à l'étranger, soit aller en Angleterre, soit le faire aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, j'ai signé avec Top Rank, tu vois. Donc je me dis, OK, et peut-être pour la suite, pour une défense de titre, pour etc., on fera un truc en France, tu vois. En tout cas, ça a toujours été mon projet. Et je me dis que pourquoi je jouerais pas sur les deux tableaux, tu vois.
Et comment ça se passe, les discussions, justement, avec Top Rank? Parce que tu devais faire tes débuts, c'était quoi, aux États-Unis, 18 mars 2020, non?
Ouais.
Ouais.
Ça a été annulé à 3 jours à cause du Covid.
Exactement. Et là, comment ça se passe, la collaboration avec aussi ton promoteur français? Comment ça s'organise exactement?
Bah, on a un contrat tripartite.
D'accord.
Quoi qu'il arrive, par exemple, là, je boxe à Roland Garros, mais je serai aussi diffusé sur ESPN Plus. D'accord. Aux États-Unis depuis quelques combats maintenant.
Ouais.
Et voilà, eux, ils savent ce qu'ils font, et Top Rank. Et on va dire qu'ils sont. Voilà, ils nous laissent le temps et quand on est prêt, quand on a l'opportunité de faire un gros combat, bah, eux aussi se positionneront et c'est pour ça que je sais que les avoir avec moi pour faire un truc avec que ce soit Joyce ou un autre nom, ce sera forcément, ça pèse plus dans la balance.
Et il y a une partie de tes fans, dont moi, qui ont vraiment envie que tu fasses les combats sur les gros undercards à l'étranger. Est-ce que pour toi, finalement aussi, qui est dans une situation différente, tu chéris pas ces moments en France parce que tu te dis, finalement, tu te rapproches quelque part de la fin de cette partie où tu sais que tous tes amis, toute ta famille peuvent te voir boxer?
Oui et non, parce qu'on sait aussi que la boxe, elle est développée différemment en Angleterre. Tu prends le train à Gare du Nord en 2 heures t'y es, tu vois. Donc je pense qu'en termes de supporters et de famille, c'est pas ça le plus gros problème. Mais c'est vrai que d'avoir son public, c'est différent. Là, on va faire un peu moins de 10 000 personnes. C'est juste ouf de faire autant de personnes en France, tu vois.
Mm-hmm.
Là, on va faire ça. Décembre, on va faire une autre grande salle.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, personnellement, c'est des choses... On n'a pas entendu parler de boxe à Roland-Garros depuis 50 ans. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir mettre mon nom... avec ce stade-là, d'en faire profiter les mecs qui sont avec moi, de réunir la team solide, tu vois, de faire tout ça.
Et donc, il y a Roland-Garros là, il n'y a toujours pas eu Bercy, il n'y a pas eu le Parc des Princes, il n'y a pas eu le Stade de France.
Ouais.
Idéalement, ce serait contre quel adversaire que tu aimerais bien faire ces endroits un peu mythiques?
Bon, Bercy, en soi, c'est pas compliqué de faire Bercy. Tu vois, t'appelles la salle, tu ouvres la salle. on a fait l'U-Arena.
Ouais.
Bon, on avait eu une jauge. Mais pour Joppa, on aurait pu faire Bercy, tu vois. Et je pense que c'est pas avec un tel combat, c'est pas une histoire de place, on le remplit. Maintenant, je voulais faire un truc qui se détache de la boxe. On sort vraiment de notre zone de confort.
Okay.
Et c'est pour ça qu'on a choisi Roland-Garros. Parce que c'est un endroit mythique du sport français.
Mais tu participes aussi aux discussions, tu dis j'ai envie.
Complètement,
de
boxer. Complètement. Okay. Je participe aux discussions sur le lieu et sur les boxeurs qui sont sur la fight card.
D'accord.
Ouais. Okay. C'est quelque chose Je discute énormément avec Jérôme Abitboul, okay. et on se met d'accord. On est associés en fait sur la promotion. Donc on se met d'accord tous les deux sur où est-ce qu'on a envie de boxer, quel boxeur on a envie de mettre sur la fight card, parce que voilà, je trouve que c'est cool aussi d'être décisionnaire de ça, tu vois.
Et c'est quelque chose aussi auquel tu penses pour la suite de ta carrière, quand tu vois par exemple Joshua qui a son agence de management et d'autres bien évidemment, c'est quelque chose qui te plaît toi, ou c'est parce que t'aimes bien aussi avoir le contrôle parce que c'est toi qui es sur les posters?
Bah complètement, un peu des deux. C'est quelque chose qui me plaît et en même temps je me dis écoute, pourquoi je serais pas mon propre patron par la suite? Après t'es toujours associé parce que tu peux pas tout faire, tu vois. Mais on sait qu'aujourd'hui, Joshua, il est associé avec Eddie Hearn, et que c'est une copromotion. C'est ce que Amir Khan faisait, c'est ce que Mayweather faisait. Donc forcément, on se dit que plus tu montes, plus tu te diriges vers ce genre de business.
Et tu n'auras pas le même statut quand tu boxeras pour la première fois aux US qu'en France, même si je pense que là, avec ESPN+, qui est diffusé dans des je ne sais pas combien de foyers, ouais. Mais c'est assez monstrueux. Les gens commencent à te connaître, il y a pas mal d'articles aux États-Unis sur toi. Ouais. Tu as hâte aussi de te dire, bon, je vais pouvoir faire mon combat tranquille et il n'y aura pas toute cette pression, tout ce cirque autour de moi?
Non, je pense qu'il y en aura un peu plus, limite, tu vois. Parce que limite, parce que quoi qu'il arrive, la pression qui sera dans les médias français sera la même. Mm-hmm. Et en plus, il y aura celle des États-Unis, tu vois. Donc, qui a une résonance mondiale. Donc pour moi, il y aura un peu plus de pression, mais on va dire que je serai un peu plus libre. Mm-hmm. En tout cas, tu vois, quand tu arrives sur les conférences de presse aux États-Unis, tu dis ce que tu veux. Si tu as envie de dire, je vais lui casser la gueule au quatrième round, tu le dis. Alors qu'en France, voilà, tu doses. Surtout, je sais pas, je trouve que quand tu parles français, ça sonne pas pareil que quand tu parles anglais. Tu vois, je sais pas, c'est différent en tout cas. Donc je sais que là-bas, voilà, quand je fais des interviews, je dis clairement ce que je pense. J'ai envie de dire qu'un tel, il est comme ci, ou il a peur de ça, ou truc. Je le dis qu'en France, voilà, faut doser. C'est différent.
Ok. Récemment, tu expliquais, pour toi, c'était difficile d'affronter des adversaires mieux classés.
Ouais.
Pourquoi?
Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les gars ne veulent pas forcément prendre le risque de te boxer, au risque de perdre et de perdre des places dans le classement, de ne plus être éligible sur un championnat du monde. Donc, on regarde toujours devant. Tu vois, c'est compliqué de regarder derrière, surtout quand les mecs sont forts ou sont bien classés. Mm-hmm. Tu vois. Moi, c'est comme si tu me dis demain, je ne sais pas, affronte, il est moins bien classé que moi, Philippe Ergovitch. Mm-hmm. Aucun intérêt. Tu vois.
Après, on en parlait justement dans notre vidéo preview de ce combat-là. Nous, on aurait aimé voir ce combat-là.
Ça aurait été... Après, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je boxe tout le monde. Mm-hmm. Donc, si jamais il y a une hype autour du combat, OK, le problème avec Philippe, c'est qu'il est croate. Il y a pas... Si c'est pas un Anglais. Ça aurait été un Anglais, j'aurais dit oui.
Oui.
Parce que le public est différent.
Mais il est anglais, là, mec. Suite à fond.
Non. Mais il n'y a pas une grosse hype autour du combat.
Ouais.
Tu vois, c'est pas Joyce. Maintenant, par exemple, tu me dis boxe l'Américain qui vient de faire argent olympique. J'ai dit oui.
OK.
Parce que c'est un Américain et que tu as une plus grosse exposition, etc. Donc après, je sais qu'il a signé avec Eddie Hearn. S'il y a un titre en jeu, s'il y a quelque chose, s'il met la main à la poche, quoi qu'il arrive, si c'est un truc... En gros, il n'y a rien de mieux, j'irai. Tu vois. Mais ce n'est pas le premier nom qui me vient en tête.
Okay. Et là, tout à l'heure, tu parlais justement du fait que Wilder et Joshua, ils sont tournés autour pendant des années. Voilà. Là, on devait avoir Fury, Joshua, ça ne s'est pas fait. Ouais. Toi, comment tu feras quand tu seras dans cette situation-là où tu auras les ceintures et au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, les gars, il faudrait peut-être avancer.
En fait, je pense qu'ils sont aussi bloqués contractuellement. Aujourd'hui, les mecs, ils se boxent plus sans avoir signé une clause de
rematch.
Pour moi, c'est complètement absurde. T'as perdu.
OK.
Va te refaire les dents avec le 7e, le 8e, regagne ta place et reviens. Tu vois, quand... je sais pas, quand Ali il avait perdu face à Frazier, il a pas reboxé direct après, tu vois. Leur trilogie, elle s'est étalée sur plusieurs années. C'était pareil pour Holyfield, pour Tyson, etc. Pour moi, tu perds, tu laisses ta place au challenger de derrière qui revient. Quand tu regardes bien, Fury Wilder, c'est une trilogie qui fait... 3 ans. Tu perds 3
on
ans.
On est d'accord.
3 ans sur une carrière de boxeur, c'est énorme, tu vois. Au maximum, tu boxes pendant, 12 ans, 15 ans, tu vois. Donc, pour moi, ça vaut pas le coup. On avait vu le premier combat, ils avaient fait match nul, donc on était un peu tenus en haleine, on voulait le deuxième combat, etc. Le deuxième combat, il l'a tellement tapé qu'en fait, moi, personnellement, ne m'intéresse pas le troisième combat. Mmh. Après, admettons, Wilder gagne. Ils font quoi? Ils font
un autre combat.
C'est stupide. Tu vois. Et les mecs qui sont en attente derrière au classement WBC, un mec comme Dylan White, moi j'aurais pété les plans à cette place. Hein. Le mec, il a tout gagné.
Voilà, t'es dans cette situation-là, ça fait quoi? 3 ans que tu dois boxer pour la ceinture?
Moi, je pète les plans, je pense. Mmh. Mais genre, je vais au combat Wilder Fury, je me bagarre avec tout le monde. Ah ouais, non, je fais un vrai truc, tu vois. Parce que c'est pas normal. En soi, White, il avait perdu face à Joshua. Et depuis, il était largement éligible pour un championnat du monde, tu vois. Il avait sa WBC Silver pendant je sais pas combien de temps.
Et entre-temps, il y a eu Povetkin en plus.
Entre-temps, il y a eu Povetkin, il a perdu, il a regagné. Pour moi, c'est un peu saoulant. Et comme je t'ai dit, c'est parce qu'il y a trop de... trop de business derrière et du coup il y a trop de contrats, trop de ci, trop de ça. Pour moi, il faut refaire un peu passer le sport avant le business, tu vois. Et du coup faire autre chose. Regarde quand tu regardes Teofimo contre Lomachenko, c'était à combien de temps?
C'était il y a plus d'un an.
Il a pas reboxé depuis.
Ouais.
Teofimo.
Ouais. Non mais Teofimo il est dans une situation, c'est horrible.
C'est le mec il a battu Lomachenko. Bah derrière, je sais pas, tu lui proposes le challenger, propose ici, propose ça. Et alors que du coup, lui, non, c'est compliqué.
Il va même boxer un lundi. Et c'est le lundi 4 octobre, je crois, un truc comme ça.
C'est spécial. Tu vois, franchement, au-delà des titres, parce que c'est vrai que le fait d'être champion du monde, c'est ci, ouais. C'est ça, ça marquerait quelque chose. Tu vois, c'est un objectif que je me suis fixé. Mm-hmm. Au-delà des titres, moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est les challenges, c'est les noms.
Okay.
Tu vois. Et je suis arrivé dans une génération à un moment où les titres ils sont pris que par des gros. Mm-hmm. Si tu regardes moi ma position et la position des mecs qui sont sortis des jeux avec moi, que ce soit Ergovic, que ce soit Joyce, il y a Fury, Wilder, Joshua, rien que ces trois-là. Mm-hmm. Dire, si tu dois faire championnat du monde, tu dois battre un des trois.
Ouais.
Quand Joshua est arrivé en pro pour avoir une ceinture, il a fait un championnat du monde face à Charles Martins. Tu vois.
Ouais.
Ensuite, il a défendu sa ceinture face à Dominic Brezel. Ils ont mis KO, je sais pas combien de fois, en sparring.
Ouais, ouais.
Moi, tu me donnes un mec comme ça pour faire champion du monde, je fais champion du monde tous les jours.
Oui.
Tu vois.
Oh, ouais.
Donc,
mis KO en sparring plusieurs
fois. Avant son combat face à Wilder, on savait qu'il tiendrait pas, tu vois. Parce qu'on a fait le camp d'entraînement ensemble.
Ouais.
Mais quand tu regardes ça, tu dis ouais. Bon, d'accord.
Oui.
Avoir un championnat du monde face à eux, c'était champion du monde, mais c'est pas aussi prestigieux que le combat qu'il a fait face à Klitschko. Là, c'était son championnat du monde où là, vraiment, il s'est révélé en tant que tel, tu vois. Mm-hmm. Et aujourd'hui, moi, j'arrive dans un moment où c'est bouché. C'est bouché et tu peux pas être champion du monde sans battre une très, très grosse tête, tu vois.
Mais ça te fait rêver.
Ah, mais
plus que
je préfère. Moi, je préfère ça plutôt qu'il y a 10 ans où il y avait personne d'autre, quoi.
Mmh, oui, non,
où les deux plus grands poids lourds il y a 10 ans, c'était Klitschko et David Haye. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes les noms, bah, ça fait rêver quand même, tu vois. Entre les noms qui sont déjà là et la génération qui arrive, que ce soit moi, Ergovic, on a le même âge que Parker, ou ceux qui arrivent encore après avec les Dubois, etc. Ah non, tu dis que c'est pas pareil.
Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression, tu parlais de Parker, voilà, qu'il y a aussi Ruiz qui est dans le mix un peu. Chaque fois, les gars, ils ont un pays qui est derrière eux. Toi, il y a la France qui est derrière toi aussi. Pour toi, c'est indispensable, quand on est dans une catégorie comme la tienne, de se dire il faut aussi représenter toute une communauté.
Ouais, je pense quand même que c'est très important d'avoir ton pays derrière toi, d'avoir une grosse télé, une grosse promotion. Ça donne la crédibilité, en fait, tout simplement, pour aller affronter ces mecs-là et pour être... pour être intéressant financièrement parlant pour eux. Parce que si du coup tu viens d'un pays où t'as pas forcément de résonance, t'as pas de télé, t'as pas ci, t'as pas de ça, les mecs ils vont se dire, bah, tu vois, un gars comme F.A. Jacba, qui a fait ses preuves en pro, qui mériterait de step up un petit peu plus.
T'en penses quoi d'ailleurs de lui?
Bah, très bien, très bien. Même génération, il joue avec nous. Je crois qu'il a perdu lui en quart de finale face au Kazakh, je crois. Mm-hmm. Et chez les pros, il est.
Chez Top
Ouais, il est chez Top Rank. Je crois qu'il boxe d'ailleurs sur la fight card de Wilder Fury.
Complètement. Ouais.
Donc, non, très très bien. Après, c'est pas. Mais c'est très bien.
Ok, ça te fait. C'est pas quelque chose qui te.
Non, après on tourne en sparring, vu qu'on a le même manager, on a le même promoteur, on fait des camps d'entraînement ensemble. Mais t'as vu, un mec comme lui, comme il n'a pas un pays derrière lui avec tout ce support-là, ça va être compliqué.
Non, mais quand je dis ça, c'était plus des gars qui n'ont pas de ceinture, mais qui sont Bah, j'ai plaisant à affronter par exemple quelqu'un comme Derek Chisora.
Ouais.
Je pense que c'est un gars où tu te dis.
Non, c'est un nom qu'on a essayé. Lui, ça fait 2-3 fois qu'on essaie de le boxer.
D'accord.
On lui a proposé. Ça l'a pas fait. Bon.
Faut le faire en Angleterre.
Ah, mais complètement. Ah, mais tu sais, moi, je suis pas pour boxer qu'en France. Hein. J'ai boxé en France, c'était cool. Parce que pendant toute ma carrière amateur, j'ai pas boxé ici, tu vois. À part sur les championnats de France, tu boxes pas en France, tu vois. Les championnats du monde, ils se font au Qatar, les JO, ils se font à Rio, avant c'était à Londres. Et donc c'est plaisant de boxer devant mon public, mais du coup, je suis pas perdu sans mon public. C'est pas genre en allant à l'étranger. Je sais que si je boxe Joyce en Angleterre, je vais certainement me faire siffler.
Mais tu vas aimer ça?
Bah ouais, complètement. Complète, tu vois, parce que moi, que ce soit positif ou négatif, je vais me nourrir de ça. Et justement, le fait de gagner face à un mec qui est devant son public, bah, ça va me donner encore plus de motivation. Et là, par exemple, je serais...
Le climatiseur.
Ouais, un peu plus provocateur, etc.
Ok, bon, bah, en tout cas, on espère pour ça bientôt. Et récemment, donc, c'était avec Jean-Charles qu'on salue. Tu as parlé de Cyril Gane, qui sera présent à ton combat. Est-ce que vous connaissez bien Cyril, le champion UFC, hein?
On ne se connaît pas bien.
Okay.
Après, moi, je le suis, il me suit. Tu sais, en sport, surtout en sport de combat, c'est une petite famille, tu vois, c'est un petit milieu. Mm-hmm. Donc, on s'est parlé, je l'ai félicité après son titre. Il m'a dit qu'il sera là vendredi, je crois qu'il m'a dit ça il y a quelques jours, tu vois. Donc, on était très heureux qu'il vienne. Je pense que ça peut vraiment être la personne qui va démocratiser et faire péter le MMA en France. De par, déjà, c'est un poids lourd. De par son style de combat et surtout de par sa personnalité. On sent que, moi, par exemple, pour moi, c'est y a juste à le mettre à la télé et c'est une star en devenir, en fait, tu vois, parce que ce qu'il dégage, comment il s'exprime, etc., pour moi, il a tout de réuni pour devenir un grand du sport français. On a légalisé les MMA en France depuis quelques temps et ce serait bien que du coup son championnat du monde face à Francis Ngannou, face à Paris, ça ce serait un événement de malade avec une victoire de Cyril. Ça y est, à partir de ce moment-là, je veux dire, il va exploser.
Et t'as dit que tu te sentais justement proche un peu de ce qu'il dégageait. C'est quoi? C'est le fait qu'il soit un petit peu comme toi, dans le sens hyper naturel. Enfin, on voit pas trop de différence entre lui, entre les médias et...
Ouais, il dit ce qu'il pense, en fait. Tu vois, il est hyper naturel. Maintenant... dans son style de boxe aussi, c'est pas un bourrin. Même si, voilà, parfois on est mal à la guerre, tu vois. Mais il est hyper, il est tactique, il est réfléchi, il est technique. Il a pris son mal en patience. Je crois qu'avant il faisait du Muay Thai.
C'est ça.
Donc ça fait quand même un moment que je le suis. Je suis les sports de combat. Et non, je me sens proche de lui, de ce qu'il dégage, de comment il construit sa carrière. Pour moi, c'est très intelligent.
Et ta toute dernière question, tu parlais tout à l'heure de l'IFID, il revient ce week-end aussi.
Ouais.
Est-ce que tu as vu les vidéos de l'entraînement public ou pas?
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah bah c'est... Bah on voit qu'il a 58 ans. Et je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de ça? De là où il y a tous ces mecs-là qui reviennent sur les rings à un âge qui est peut-être...
Pour moi, bah déjà j'ai plus de respect pour ça. Pour par exemple Paul Logan face à je sais pas quel autre YouTuber.
Okay.
Pour moi, ils se font un kiff. Il faut le laisser se faire un kiff. Ali, il avait fait des combats d'exhibition face à des catcheurs, face à des trucs. Et on ne l'a jamais vraiment pris au sérieux, entre guillemets. Tu vois, je pense qu'il faut aussi laisser place à l'entertainment.
Mm-hmm.
On fait de la boxe, c'est un show, c'est pas un art martial.
Okay.
Il ne faut pas en attendre trop non plus. Quand on regarde le combat Roy Jones face à Tyson, il ne faut pas trop en attendre. Tu vois, je veux dire, ça nous... on est nostalgique, donc ça nous fait plaisir de les regarder, tu vois, de les voir. Mais c'est un petit peu comme quand, je sais pas, tu vas voir un match de foot Génération 98 et tu vois Zidane qui rejoue avec Djorkaeff, avec truc. On est là pour prendre du plaisir, mais ils vont pas te faire un tacle et arracher une jambe, tu vois. Ils vont pas faire ça. C'est un peu les All-Star Games à l'ancienne. Donc pour moi, il faut juste se dire, écoute, ils sont là pour prendre du plaisir, mais il faut savoir le différencier de la vraie compétition, tu vois, de ce qui se fait au niveau, etc., tout comme les youtubeurs, etc.
Mais après, il y a quand même des risques, parce que c'est ça aussi.
Il y a des risques.
Le combat, c'est pas comme le foot. Au pire, on vient se faire des ligaments croisés, un truc comme ça.
C'est sûr, il y a des risques. Et après, je sais pas s'ils sont vraiment mesurés tout le temps, mais s'ils boxent, s'ils le font, c'est qu'ils ont été aptes logiquement à le faire. voilà, ils se font un kiff. De La Hoya, il est passé, c'était The Golden Boy, tu vois, il était tout en haut, il a eu une grosse dépression, il était toxicomane, accro à la coke. Je pense aussi que c'est, tu sais, du jour au lendemain, de passer de t'es tout en haut, t'es un boxeur comme ci, comme ça, à plus rien, ça lui a mis un coup. Et peut-être que c'est ça, sa thérapie, sa guérison, le fait de se dire, allez, je reviens. Donc pourquoi pas, tu vois. Moi, pour moi, ça, si ça leur fait plaisir, en fait, allez-y, les gars, faites-vous un kiff, tu vois.
Eh ben, voilà. Bah, top. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Tony. Bon, enfin, bon courage. Enfin, en tout cas,
c'est
rendez-vous, c'est vendredi soir, en Langaros. Bon, bah, là, on avance.
On a fait le tour et puis on avance, on continue.
Formidable, merci beaucoup.
Merci à toi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.